cherche spectateurs désespérément. Avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire en juillet dernier, la fréquentation des salles a drastiquement baissé, un public divisé par deux. Alors bien sûr, il faut nuancer, certaines salles sont plus touchées que d'autres, les multiplex par exemple, et puis certains films sont des boosters, merci Kaamelott. Il faut dire aussi que les plateformes Netflix, Amazon et Disney ont fait le plein pendant ce temps. Alors concurrence déloyale ou saine émulation ? Godard avait déjà prophétisé à sa façon la mort du cinéma. Il paraît que même Louis Lumière, son inventeur, ne lui voyait pas d'avenir. S'il fallait donner un titre à cette émission, ce serait ni La Dernière Séance, ni Adieu ma concubine, mais plutôt No Time to Die, Pas le temps de mourir, le prochain James Bond sans cesse repoussé qu'on attend bientôt sur les écrans. Cinéma, clap de fin, point d'interrogation, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui.
Thomas Chauvineau, le débat de midi. Sur France Inter.
Et bien sûr, on attend vos réactions sur le site ou sur l'appli de France Inter. Et comme tous les jours, on commence l'émission en ouvrant le journal. Et c'est Society qu'on feuillette ce matin avec un sujet coquin. Bonjour Hélène Coutard.
Bonjour.
Vous revenez dans les pages de Society sur la saga du Womanizer, le sextoy pour femmes le plus vendu au monde. Et vous avez rencontré son... Et ça d'ailleurs, parce que sa femme a aussi travaillé sur la question, vous allez nous le raconter, son et sa créateur, créatrice.
Oui, tout à fait, ça a été inventé par un Allemand de plus de 70 ans qui s'appelle Michael Menke, et en effet sa femme, qui s'appelle Brigitte, c'est des Bavarois, qui ne travaillaient pas du tout dans l'industrie du sextoy jusqu'à il y a peu. En fait, Michael c'était un ingénieur agronome qui n'a pas fait ça pendant très longtemps, qui est ensuite devenu inventeur, et qui a inventé toutes sortes de choses très différentes dans la luminothérapie, dans la cosmétique. En fait, il est devenu riche assez jeune, avant ses 30 ans, avec un procédé qui permet aux plantes de rester miniatures. Alors avec ça, il est devenu très riche. Il aurait dû arrêter de travailler, mais il a décidé de continuer à inventer des choses et d'autres. Et jusqu'à 2013, où il découvre ce qu'on appelle l'orgasm gap en anglais, le fossé de l'orgasme, qui définit en fait le fait que les femmes hétérosexuelles ont moins d'orgasmes que les hommes.
Et donc là, il se dit, il faut régler ce problème.
Oui, il se dit en bon ingénieur qu'il y a forcément une solution à ce problème, et il va aller la chercher dans la technologie. Il va essayer d'inventer quelque chose qui va stimuler le clitoris, puisque ses recherches l'ont fait comprendre que c'est par là que les femmes avaient un orgasme, en tout cas la plupart du temps. C'est un organe qui a beaucoup de nerfs, donc il faut le stimuler, mais subtilement. Donc il va essayer de trouver un procédé qui marche comme ça. Donc il va se tourner vers quelque chose qui marche à air pulsé un peu. Sauf que, évidemment, Michael ne peut pas le tester. Donc c'est là que sa femme Brigitte va tester tous les procédés qu'il invente pendant 2 ans.
En lui disant parfois, là il y a un peu trop d'air, là il n'y en a pas assez, parce que vous racontez, il est assez savoureux, mais comme il est midi, on ne va pas non plus trop en dire. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que cet homme, donc Michael Lenke, n'a pas du tout conscience qu'il se joue là quelque chose de très féministe. Hein, puisqu'on le sait, hein, mais l'histoire du clitoris l'a montré, il a disparu des planches anatomiques dans les années 1920 à peu près, pour réapparaître que après les années 2010 en Occident.
Oui, Michael, j'en ai parlé avec lui lors de l'interview. Maintenant, il s'est fait à cette idée, mais à l'époque où il inventait le Womanizer, entre 2012, 2013, 2014, lui, il partait pas d'une réflexion féministe. Il voulait juste trouver une solution à un problème. Depuis, évidemment, il a bien compris que son invention a eu une portée féministe. Déjà, dans les années 60, les féministes de la seconde vague pensaient déjà que le sextoy pouvait être un outil de libération, puisqu'il mettait fin à une dépendance vis-à-vis de l'homme, et il permettait l'orgasme qui était considéré comme un droit fondamental. Alors, Michael Menke était loin de toutes ces considérations, mais il a quand même inventé un sextoy féministe.
Et qui concerne aujourd'hui 4 millions de femmes, en tout cas qui a été vendu à 4 millions, à plus de 4 millions d'exemplaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne le trouve pas forcément dans les salons porno, ou enfin, qu'on peut imaginer, quoi, mais plutôt dans des salons liés au bien-être. Hein. C'est là qu'il fait ses ventes.
Oui, ça c'était très important pour Michael, et c'est devenu ensuite très important pour l'entreprise qui a racheté la technologie. Il ne voulait pas du tout que ce soit lié à la pornographie, puisqu'il voulait vraiment que ce soit quelque chose de très accessible, de très accepté, que ce soit quelque chose qu'on puisse s'offrir en famille. Donc, il ne fallait pas que ce soit trop sexuel, ce qui est un peu paradoxal puisque ça reste un sextoy. Mais en effet, il est vendu comme un produit lifestyle et quelque chose qui est bon pour la santé.
Eh bien, merci Hélène Coutard. Ce sujet donc sur le womanizer est à retrouver dans les pages de Society.
Vous venez sur votre magnétoscope d'enregistrer un film à la télévision.
Le cinéma français est en péril de mort.
Tout dépend comment on définit le cinéma. Peut-être que ce n'est pas seulement dans les salles ou sur les sites, les plateformes de cinéma qu'on continue le cinéma, mais peut-être dans un art qui est quand même assez voisin, qui est un peu un art jumeau, qui est celui de la série télé.
Et c'est pourquoi le cinéma français va s'arrêter. Si l'État se refuse à être autre chose qu'un percepteur insatiable, il va tuer ce qui fut la seconde industrie française.
Si vous deviez faire un pari sur l'avenir, c'est-à-dire si vous aviez le choix entre cinéma et télévision, vous, Mireille Darc, et personne d'autre, qu'est-ce que vous prendriez ?
La télévision.
Le futur du cinéma, malheureusement, il n'est plus là. C'est comme se battre pour qu'une espèce animale ne disparaisse pas. Les tigres vont disparaître, quoi qu'il se passe. Les salles de cinéma sont vouées à disparaître, quoi qu'il se passe.
Extrait d'un medley vidéo diffusé en mai dernier sur France Culture, sur le site internet de France Culture, avec la voix de Mathieu Kassovitz, qu'on vient d'entendre en prophète, hein, qui termine cet extrait. Quatre invités pour parler du cinéma aujourd'hui. Nathalie Cosse-Cerdan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de la FEMIS. Sophie Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coprésidente du cinéma Le Bretagne à Guichen, c'est bien comme ça qu'on prononce, Guichen, en Ille-et-Vilaine.
Oui, c'est bien ça.
Et merci aux techniciens à Radio France Armorique, je pense que c'est Radio France Armorique, de nous permettre la liaison en duplex. Valérie Lépine-Carnic, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes présidente de l'Union des producteurs de cinéma et enfin Guillemette Audicino, bonjour.
Bonjour.
Critique cinéma pour Télérama, les auditeurs de France Inter vous connaissent bien. Je le disais en ouverture de l'émission, avec l'entrée en vigueur du pass dans les cinémas, la fréquentation a chuté de 50%. L'Observatoire européen de l'audiovisuel va encore plus loin, puisque lui, il évoque une baisse pour l'année 2020 de 73% en termes de nombre d'entrées par rapport à 2019. Comment ça se passe, Sophie Robert, vous qui coprésidez un cinéma en Bretagne pour vous? Vous y êtes confronté à cette chute de la fréquentation?
Oui, comme tous les cinémas, toutes les salles de cinéma, ça s'illustre par vraiment une grosse perte de chiffre d'affaires et d'entrées, moins 70% sur l'année 2020, et puis 2021, je pense que on atteindra à peu près ce niveau-là également, malheureusement.
Vous pouvez nous décrire votre cinéma, à quoi il ressemble?
Alors mon cinéma, je ne dois pas dire d'ailleurs ça, je suis pas propriétaire du cinéma, je ne suis qu'une modeste bénévole.
Un attachement, c'est comme on dit, mon chéri, vous n'êtes pas propriétaire de votre chéri non plus.
C'est ça. Donc le cinéma Le Bretagne à Guichen est implanté donc dans une petite commune au sud de Rennes qui s'appelle Guichen, donc 9000 habitants, et c'est une association loi 1901 sans but lucratif qui est animée essentiellement par des bénévoles, puisqu'il y a donc une soixantaine de bénévoles et une salariée à 25%.
Et comment vous avez vécu ce confinement ?
Ce qui a été le plus difficile et le plus douloureux pour tout le monde, c'était les temps de fermeture. Les temps où il a fallu s'adapter, faire face aux déprogrammations, faire face aux différentes contraintes de restrictions de jauge, de couvre-feu, ça on a su s'adapter. On a été, je pense, comme toutes les salles, très réactifs. Et d'ailleurs, les spectateurs ont également, je trouve, se sont plutôt également plus bien adaptés. Mais là où on savait pas faire, c'est face à la fermeture, quoi.
J'ai croisé, à titre personnel, hein, le jour du confinement, le premier confinement, la directrice du cinéma de la ville où je vis, et elle était en larmes. Et vous avez dit mon cinéma, Sophie Robert, mais c'est vrai qu'il y a un attachement particulier, presque, je ne sais pas, amoureux, amical, avec les gens qui passent des films dans les cinémas, Guillemette Audicino.
Oui, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que cette période de pandémie, après, on reviendra sur le fait, est-ce que la pandémie va tuer le cinéma ou pas, mais que les cinémas aient fermé. C'était une première historique. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les cinémas ne fermaient pas. Enfin, en tout cas, pas tous. Là, c'est la première fois qu'on a vu une période pareille où les cinémas fermaient à cause d'un mal extérieur. Donc ça, je pense que c'était très violent. D'abord, évidemment, pour les exploitants, pour tous ces bénévoles, et puis pour les spectateurs. Je pense que c'était violent de se dire que ces lieux, qui sont des lieux ô combien communautaires et des lieux de partage, des lieux d'émotion partagée, n'étaient plus accessibles.
Et est-ce qu'on peut se relever de ça? Si on prend les chiffres en termes d'entrées, hein, 213 millions d'entrées en 2019, 65 seulement en 2020. Valérie Lépine-Carnic, est-ce qu'on peut se relever d'une baisse aussi drastique que celle-là?
Ça a été un gros traumatisme, comme vous venez de le dire, pour les salles, pour les spectateurs, et puis...
Et pour les producteurs aussi que vous représentez, j'imagine.
Et pour les producteurs, bien évidemment, parce que tout ça est un ensemble, de la production à la distribution à la sortie en salle. C'est un grand tout. Le financement des films dépend évidemment de la diffusion en salle. On a été tous en état de choc, et la crainte que l'on a aujourd'hui, c'est celle de la désaffection des salles de cinéma. Est-ce que le public reviendra? Le pass sanitaire a donné un coup supplémentaire à cette économie. Ça a été très très mal vécu par les exploitants, par les professionnels dans leur ensemble. Et je dois ajouter un élément supplémentaire, c'est que le public des salles de cinéma, et on en reparlera certainement, est vieillissant. C'est pas un phénomène nouveau, c'est quelque chose qui a été relevé dans un rapport qui a été rendu au Centre du cinéma en 2016 par Jean-Marie Duras. L'âge moyen, 41% des spectateurs ont plus de 50 ans. Voilà. Donc, est-ce que ces gens reviendront en salle? C'est une vraie question.
Alors, peut-être que les jeunes désaffectent les salles de cinéma, mais en tout cas, ils se bousculent au portillon pour rentrer à la Fémis, l'une des écoles les plus importantes du cinéma en France, et même d'ailleurs reconnue à l'international. Nathalie Coste-Cerdan, vous êtes directrice générale de la Fémis. Il y a un engouement, et vous nous l'avez dit quand on a préparé l'émission, les jeunes sont de plus en plus nombreux à vouloir passer le concours pour rentrer dans cette école.
Tout à fait, et ce qu'il faut peut-être souligner, c'est que comme la France est vraiment une terre de cinéma, elle a considéré que c'était une chose suffisamment importante, le cinéma, pour que l'État prenne en charge une école de cinéma à haut niveau. Et donc, chaque année, c'est 50 étudiants qui sont des vrais passionnés, qui ont passé un concours difficile, qui peuvent donc accéder à cette école publique quasiment gratuite, qui ne viennent donc pas forcément de familles de cinéma, et qui effectivement, comme vous le dites, sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance pour ce concours, et à exercer ensuite donc des métiers auxquels forme cette école, puisque sa particularité, c'est de former à tous les métiers du cinéma, sur toute la chaîne de fabrication, puis sur la diffusion des films. Donc on prépare aussi bien des scénaristes, des réalisateurs, des monteurs, des ingénieurs du son, des chefs opérateurs ou opératrices, il faut toujours féminiser les noms, et aussi des exploitants et des distributeurs. Donc tout ça fait partie des métiers auxquels les étudiants que nous formons peuvent prétendre à la sortie, en bénéficiant d'un effet un peu accélérateur par rapport à un parcours d'autodidacte qui est toujours possible, évidemment.
Et à ce sujet, la récente Palme d'Or de Julia Ducournau pour son film Titane, c'est aussi une Palme d'Or qui pourrait être attribuée à la Fémis, puisqu'une grande partie de l'équipe du film est passée par la Fémis.
On peut dire qu'on était très très fiers que cette jeune réalisatrice et toute l'équipe, dont une grande majorité provenait aussi de l'école, reçu une telle reconnaissance. Donc on en a pris une petite part, parce que je crois que justement l'un des principes de cette école, c'est d'essayer de faire en sorte que la pratique soit importante, c'est-à-dire qu'on ne vient pas seulement assister à des cours. On dit souvent que la Fémis, c'est une école sans cours ni professeurs, puisque les professeurs sont des professionnels en activité qui acceptent de donner une partie de leur temps pour transmettre leur savoir-faire, et qu'ensuite, donc, ils fabriquent des films ensemble. C'est très important, c'est-à-dire qu'ils conçoivent des œuvres, ils les écrivent, ils les tournent, ils les produisent, ils les montent ensemble. Et ça crée en fait plein d'affinités entre ces gens d'une même génération. Et ce qui fait que longtemps après la sortie de l'école, ils continuent à avancer comme ça, par bande, pour produire des films. Et c'est un des effets très vertueux en fait de la pédagogie de l'école que de favoriser ces rencontres au moment où ces jeunes gens rêvent de cinéma et arrivent à en faire au début dans le cadre de l'école.
Qui met au Dicino, c'est pas pour autant que ça va remplir les salles qui, pour l'instant, sont à moitié pleines des salles françaises.
Oui, mais on a été étonnés, par exemple, par les très bons chiffres de Titane en salle, qui pourtant, en plus, est un film quand même, qui peut être considéré comme difficile d'accès, puisqu'il est à la fois horrifique.
Elle joue sur plein de registres.
C'est un film qui peut un peu affoler. Donc, d'abord, on voit quand même que un cinéma excitant reste désirable, y compris en salle, vous savez, cet endroit où on va voir un film tous ensemble, que la Palme d'Or reste un petit plus qui excite aussi les spectateurs pour aller voir les films. En fait, la chose, c'est que je pense que le cinéma, lui, restera attractif, ever, désirable, que des gens auront toujours envie de voir des films, que des gens auront toujours aussi envie d'en faire, de raconter des histoires. Il y aura toujours des gens pour faire des histoires et des gens pour les regarder. Après, évidemment, la question majeure, c'est où et comment. Alors, parce que quand vous dites que effectivement là en ce moment dans les salles c'est atroce, les spectateurs sont en baisse, mais
j'ai
on partait
pas dit c'est atroce, hein.
on le pense tous, mais on partait d'un chiffre de 2019 qui lui était record en positif, c'est-à-dire en 2019 il y a eu des chiffres d'entrée incroyables en France, donc on voit quand même que en période disons lumineuse les gens vont au cinéma.
Et puis quand on regarde les chiffres du box-office, on a par exemple pour Kaamelott 2 millions, plus de 2 millions de téléspectateurs.
Donc quand le désir est fort, quand même, là, les gens font la démarche.
Valérie, j'ai dit téléspectateurs, pardon.
Ah bah voilà, bah bravo. Bah
c'est,
alors.
C'est pas mal, hein. Valérie Lépine-Carvin.
Oui, bien sûr. Il y aura toujours des contenus, il y aura toujours des histoires à raconter. Mais le film de cinéma, c'est un film qui va au cinéma.
Oui.
Et tout est organisé en France pour que ces deux choses aillent de ensemble, c'est-à-dire la réglementation, tout ce qui fait aujourd'hui l'écosystème de financement, etc. Un film de cinéma, c'est un film qui va au cinéma. Et on va certainement revenir sur ce point, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui particulièrement contesté par les plateformes, puisque Netflix aura tendance à considérer qu'un film de cinéma, c'est un unitaire comme Balle perdue, qui a fait des records hallucinants de clics et de visualisations, plus de 30 millions si je ne me trompe pas. Un film de cinéma, c'est un film que l'on va voir ensemble au cinéma et pas uniquement derrière un petit écran.
La mort du cinéma est-elle programmée? C'est la question qu'on se pose dans le débat de midi aujourd'hui. Et on attend toujours vos commentaires, vos réactions sur le site de France Inter. Un débat qu'on continue en musique avec une chanson qui sonne comme un titre de film.
La vie est belle. Mais c'est pas du gâteau. Amis, vos tours attendez donc votre tour pour manger. Se régaler à niveau tour, attendez donc vos tours. La queue le, qui sait qui n'en veut. Ce qui est tombé va certainement monter. Quand c'est cassé, il n'y a plus qu'à fixer. Si c'est fixie, qui s'y colle, c'est ok. Si t'es KO, tu sais où appuyer. Tony, tous ces rythmes à donner, de Kala
Calcutta jusqu'à Panama City. Féliciter tout ce qu'on peut se souhaiter. Sagacité, nos cerveaux sont armés. Nos cerveaux sont armés. Tous les défis simplement relevés. Manches retroussées, tout pour y arriver. La vie est belle, mais c'est pas du gâteau. Et ce gâteau fait pour être partagé. Gâteau, gâté, autour, chacun son tour.
La vie est belle, une chanson signée Fixie, il est midi 26.
Le débat de midi, à retrouver pendant tout l'été à midi sur France Inter et en podcast sur franceinter.fr.
Quatre invités pour parler de la mort programmée ou non du cinéma aujourd'hui. Nathalie Cosse-Cerdan, qui est directrice générale de la FEMIS, une des plus grandes écoles de cinéma. Sophie Robert, qui est coprésidente d'un cinéma en Bretagne, à Guichen, en Ille-et-Vilaine. Valérie Lépine-Carny, qui est présidente de l'Union des producteurs de cinéma. Et Guillemette Audicino, critique cinéma pour Télérama. Et puis ces messages qui nous arrivent sur franceinter.fr ou sur l'appli de France Inter. Gilles nous dit « Netflix ne pourra jamais remplacer l'expérience magique d'aller voir un film au cinéma. Le cinéma a survécu au cassette vidéo, au DVD, il survivra à Internet. Yann, désolé, mais le seul problème, et seul est écrit en lettres capitales, le seul problème du cinéma, c'est le prix, c'est devenu un luxe. Donc seuls les vieux peuvent se le payer. Maëlle est dans le même sens. Hein, on parle du vieillissement des spectateurs, mais n'est-il pas à mettre en corrélation avec l'évolution des prix d'une place de cinéma? Et enfin, François, qui est assez radical dans sa démarche, je ne vais plus au cinéma depuis des années, les salles sont sales, les sièges emplis de débris de pop-corn, entre autres, nourrissons et on est entouré de gens qui s'empiffrent durant la séance, commentent le film à voix haute ou allument leur téléphone pour masquer tout cela. Les salles augmentent le volume sonore. C'est insupportable, nous dit François. Il y a quand même des différences. Alors, on a parlé de la baisse de fréquentation, mais curieusement, ce sont justement ces multiplex dont parle François qui sont plus touchés que les autres. Valérie Lépine-Carnic.
Alors, il semblerait effectivement que les multiplex aient le plus souffert de la crise. Je rappellerai quand même que les cinémas ont été fermés pendant 162 jours en 2020. C'est énorme, gigantesque. Évidemment, ce sont des grandes machines qui ont des coûts de fonctionnement très lourds. Et que peut-être aujourd'hui, les salles de proximité, comme les supérettes de centre-ville ou de ville moyenne, ont un avenir je ne dirais peut-être pas réjouissant, mais en tout cas meilleur, plus souriant. Et puis, il y aura certainement dans les années à venir un effet et un effort de proximité, de connaissance du spectateur que font déjà aujourd'hui beaucoup de salles. Hein. Mais c'est certainement une chose que demanderont les spectateurs encore plus à l'avenir.
Sophie Robert, à Guichen, donc dans votre cinéma, sont des spectateurs qui sont habitués, vous nous avez dit, petite salle, petit village, qui viennent là comme on va dans la librairie de quartier, chez son épicier du coin?
Alors, je vais réagir à ce que j'ai entendu sur les messages que vous avez reçus, parce que, évidemment, moi, je me retrouve pas du tout dans les messages. Nous, on a une politique de prix. Alors, c'est vrai que moi, mes charges de fonctionnement, elles sont minimes, hein, puisque la charge salariale, elle est minime. J'ai la chance, le cinéma Le Bretagne n'a pas de loyer, il est propriétaire de ses murs, il n'y a pas d'emprunt en cours. Donc, voilà, les besoins en fonctionnement sont nettement moins importants qu'une salle privée.
Bon, c'est-à-dire, ça coûte combien quand on va au cinéma chez vous?
5 euros. 5 euros en plein tarif. 4,10 € lorsqu'on a une carte de fidélité, et on en vend vraiment beaucoup, beaucoup. 4 euros, évidemment, quand on est à moins de 14 ans. Et donc, voilà, la politique tarifaire fait que nous, on a des spectateurs vraiment extrêmement fidèles. On connaît nos spectateurs, on adapte la programmation à nos spectateurs. La notion de proximité prend tout son sens, finalement. Tout son sens.
4,10 €, c'est vrai que quand on le compare au prix des places dans les multiplex, Guimetto Dicino, il y a une vraie fourchette, un décalage énorme.
Ah bah oui, c'est absolument gigantesque. Mais en fait, les messages des auditeurs sont extrêmement intéressants, parce que si on en fait la synthèse, il y a un mot qui surgit, en fait. C'est cinéphilie. Excusez-moi, je prononce un gros mot. Alors, cinéphilie.
Oh, enfin, on est sur France Inter, il est midi et demi.
Oui, voilà. Mais parce que, en fait, les multiplex attirent comme ça des gens qui, soudainement, ont un désir d'aller voir un blockbuster. Bon, alors, en ce moment, en plus avec le pass sanitaire, et souvent les blockbusters ou les films comme ça de divertissement concernent un public jeune qui n'est pas forcément vacciné. Donc, évidemment, là, le pass sanitaire, ça pose un problème. Le multiplex ne propose pas la même expérience de cinéma. Tandis que, effectivement, la salle de proximité, les salles arrêt essai, elle concerne un public cinéphile, fidèle, qui fait une démarche vraiment consciente d'aller au cinéma. C'est un rendez-vous pour eux, c'est important. Donc, pas de problème d'avoir pour ça à montrer un pass sanitaire. Enfin, y a une démarche, une volonté vers le film qui n'est pas la même. Après, quand la pandémie sera derrière nous, quand le pass sanitaire sera derrière nous, la démarche générale vers le cinéma, que ce soit comme ça un désir éphémère, rapide, qui ne demande aucun pass, ou que ce soit encore la fidélité cinéphile envers les petites salles, tout ça va devenir une démarche identique. Mais pour le moment, il y a vraiment, en fait, la seule chose qui fait pass, c'est la cinéphilie.
Alors, on a commencé à le dire, mais les jeunes manquent aussi dans les salles. Alors, ils continuent évidemment d'aller au cinéma, mais la fréquentation des 15-25 ans a baissé de 17 millions d'entrées sur les années 2010-2019. 17 millions, c'est pas rien. Et par ailleurs, c'est un public qui va rarement voir les films français, plutôt les gros blockbusters américains. Comment, Valérie Lépine-Karnik, on peut faire revenir cette jeunesse qui a disparu des salles, enfin, qui est en train de disparaître des salles?
C'est un sujet qui est considéré par le Centre national du cinéma de façon très très sérieuse. Son président Boutonnat a à cœur de faire revenir les jeunes spectateurs. Ça passe par des politiques tarifaires.
Il propose d'ailleurs un programme pour faire revenir les jeunes au cinéma.
Oui, CNC a mis en place. Absolument. Et ça passe aussi par une politique tarifaire. Maintenant, je voudrais quand même battre en brèche l'idée reçue selon laquelle le cinéma est un loisir cher. Le prix moyen de la place est plus près de 5 euros en moyenne que de 10 euros. Il faut le savoir quand même par le biais des abonnements, des cartes, etc. C'est quand même pas le loisir le plus cher du monde. Loin s'en faut. Donc, c'est pas nécessairement pour les jeunes un problème de prix. C'est un problème aussi de temps, d'écran. Parce que, comme vous l'avez dit, les jeunes passent beaucoup, beaucoup de temps devant leur écran dans leur chambre. Donc, il faut les faire sortir. C'est une démarche qui passe par l'éducation, l'éducation des parents, l'éducation à l'image. Et c'est un ensemble auquel on doit être très, très vigilant, évidemment.
Nathalie Cosse-Cerdan, à la FEMI, c'est peut-être justement en formant une jeune génération de cinéastes, avec aussi des nouveaux codes, des cinéastes qui ont digéré TikTok, qui ont digéré les séries, qu'on ramènera les jeunes devant le grand écran et les faire sortir de leur petit écran, comme le dit Valérie Lépine-Karnik.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est très important que des jeunes réussissent à faire du cinéma avant d'être trop vieux, parce que la tradition dans le cinéma français et mondial en général, c'est qu'on devient réalisateur assez tard. La moyenne, je crois, en France, s'établit à près de 50 ans, le premier film. Donc l'idée, c'est de pouvoir rajeunir pour parler de choses qui sont compréhensible de ces jeunes publics. Et je crois que pour compléter ce qui a été dit précédemment, c'est vrai que il faut inventer des genres, des nouveaux genres. Il faut faire que le cinéma se renouvelle dans ses formes, dans ses supports. Et je crois que c'est ce qu'on essaie d'enseigner ici à l'école. L'hybride, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux jeunes d'aujourd'hui. Et par ailleurs, pour prolonger aussi ce qui concerne l'expérience de la salle, nous, on a des jeunes à l'école dans la section exploitation qui réfléchissent justement dans leur mémoire de fin d'études à la manière de faire revenir le public jeune en salle après cette pandémie et indépendamment de toutes les tendances structurelles qu'on a dessinées. Et il s'avère que à la fois il y a cette importance de transmettre la passion, c'est-à-dire tout ce qui fait la richesse du tissu de médiateurs de cinéma, les journalistes, les critiques, les enseignants, enfin que cette France qui se différencie beaucoup de ses homologues européens par le maintien de tout ce tissu extrêmement diversifié, ça il faut absolument que on le maintienne et chez nous c'est vraiment un leitmotiv très fort. Et d'autre part que les salles réussissent à utiliser les armes de ce qu'elles considèrent comme leur adversaire, à savoir l'utilisation des données, c'est-à-dire arriver à fidéliser les jeunes spectateurs en connaissant mieux leurs goûts et en essayant aussi de travailler sur des programmations qui les concernent.
Donc utiliser les algorithmes pour faire revenir les gens au cinéma.
Je dirais pas
comme le fait, Google.
Effectivement, on a depuis très très longtemps des cartes de fidélité qui comportent énormément d'informations aussi sur les goûts et les envies des spectateurs de cinéma. Et c'est vrai que sans doute il faut c'est d'ailleurs en cours que se mettent en œuvre des analyses assez poussées pour essayer de faire en sorte que on réponde davantage dans la salle au désir de cinéma des jeunes spectateurs. Mais vous avez raison, au départ, c'est aussi arriver à faire des films qui les concernent et qui les ramènent en salle vers le cinéma français, notamment.
Stéphanie Robert, en Bretagne, donc à Guichen, dans votre cinéma, alors il n'y a pas que les visiteurs du soir, si je puis dire, il y a aussi les spectateurs qui viennent en journée, notamment les scolaires, et là aussi, faire venir des scolaires dans le cinéma, c'est une façon d'apprendre peut-être aux jeunes à franchir la porte du cinéma.
Oui, complètement, et les fermetures, justement, n'ont pas permis ça. Et notamment en 2019, le cinéma Le Bretagne avait accueilli 5000 scolaires. Et en 2020, à peine 1500, quoi. Et c'est vrai que on a une vraie mission d'éducation à l'image et de faire venir les enfants dès le primaire, en fait, dès même la maternelle. Cinéma Le Bretagne, on a un petit festival qui s'appelle Cinémalis qui est proposé à tous les enseignants et toutes les écoles du secteur. Et c'est vraiment à partir de 3 ans et généralement.
Dès 3 ans?
Ouais, dès 3 ans. On a une programmation, on fait vraiment très, très attention à ce que l'on peut. Ce sont souvent d'ailleurs des programmes de court-métrage. On fait donc très attention à cette programmation-là. On travaille avec les enseignantes, évidemment. Et tout ce secteur, enfin en plus les scolaires répondent très très bien là le troisième trimestre lorsque les scolaires ont pu revenir dans les salles. On a été obligés de multiplier les séances et de trouver des bénévoles qui pouvaient projeter en journée parce que c'est aussi une problématique qui existe au cinéma Le Bretagne, c'est de trouver des bénévoles disponibles en journée parce que la majorité des bénévoles sont actifs.
Ils travaillent.
Voilà. Mais l'éducation à l'image et l'accueil des scolaires, elle est primordiale, primordiale.
Sur l'appli de France Inter, Alain nous dit « Soyons optimistes pour le cinéma français, il est de qualité, les gens ont besoin de culture et de rêve, nul doute que le cinéma a de beaux jours devant lui. » Nadine nous dit « Je confirme, le cinéma c'est aussi une sortie pour ne pas rester enfermé, c'est aussi un partage avec des amis ou de la famille. Frédéric, j'ai découvert des films de Godard ou de Bergman avec Netflix. Il y a aussi Arte, mais je continue à aller au ciné pour les vrais films comme le dernier Léos Carax dernièrement. » Et puis enfin Daniel, un film de cinéma doit répondre aux attentes des spectateurs. Le choix devrait être laissé au spectateur de regarder son film sur sa plateforme préférée ou au cinéma. C'est le choix fait par Disney aux États-Unis et ça semble fonctionner. Alors voilà, on y vient, le sujet des plateformes et l'influence des plateformes sur le cinéma. Guillemette Audicino.
Oui, alors, enfin, d'abord, juste pour parler de... En fait, c'est vraiment aussi une question, quand on parle d'éducation à l'image, c'est aussi éducation à l'émotion de l'image. C'est-à-dire que quand on regarde un film sur Netflix, quand on regarde, pas un cinéphile évidemment, mais et je comprends très bien que ce soit agréable de découvrir, si on l'a pas fait encore, des films de Truffaut ou de Godard sur Netflix. Tant mieux, si en plus ils se mettent un tout petit peu à célébrer le patrimoine. Mais en revanche, pour un adolescent ou un enfant qui découvre le cinéma, le découvrir sur Netflix ou sur n'importe quelle plateforme, ça ne hiérarchise rien. C'est-à-dire qu'il va regarder un manga pourri, une série moyenne, un film d'adolescent nul et un Godard au milieu. Enfin, mais il va pas s'apercevoir en fait de la différence. C'est-à-dire que par définition, sur le côté lisse de sa tablette ou de son ordinateur, tout a la même valeur. Y compris dans les profondeurs de champ. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pose problème. Que des gens qui aiment le cinéma de tout temps, et en plus, et qui vont en salle, et en plus la possibilité de visionner certaines choses sur Netflix, tant mieux. Si Netflix devient le seul pourvoyeur d'images des générations futures, ça pose vraiment alors un problème, y compris dans la notion de juger le cinéma, quoi. Ça, c'est vraiment problématique.
Valérie Lépine-Carnic, est-ce que ces plateformes concurrencent le grand écran ?
Le terme concurrence n'est peut-être pas celui qui s'applique le mieux aux plateformes. Il faut dire qu'aujourd'hui, les plateformes déboulent dans notre paysage audiovisuel. Enfin, ça fait déjà quelques années, mais enfin bon, là, depuis le mois de juin, un décret a été pris pour que ces plateformes contribuent effectivement au financement des œuvres françaises, tant audiovisuelles que cinéma. Alors, ça chamboule complètement notre modèle économique, ça chamboule aussi les contenus. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui fait la diversité du cinéma français, sa pluralité, c'est que il y a beaucoup de gens qui financent un film. Il y a des chaînes de télévision payantes, privées, il y a des aides publiques. Demain, on risque d'aller vers une uniformisation des contenus au travers d'un financier très doté financièrement et d'avoir demain des propositions. Alors si on parle de Netflix, qui seront des propositions teen movie, Amazon, on ne sait pas très bien encore, mais il faut aussi dire que Amazon a contribué à un film qui a été présenté à Cannes, Annette. Donc on voit qu'il y a un mélange des genres. C'est pour ça que quand vous parlez de concurrence,
c'est pas forcément de la concurrence.
C'est pas de la concurrence, c'est peut-être de la concurrence, mais en tout cas, il y a un vrai mélange des genres.
À quelle hauteur le financement de ces plateformes pour le cinéma ?
Alors, aujourd'hui, on est en phase d'approche. Hein. Comme je vous le disais, le décret, il a été pris en juin. Il n'est pas encore totalement opérationnel, loin s'en faut. Tous les professionnels sont en train de négocier ce que demain sera l'audiovisuel et le cinéma. Ce que Netflix a dit aujourd'hui, c'est que en 2022-23, il contribuerait à hauteur de 40 millions pour l'audiovisuel et le cinéma. C'est quand même à rapprocher de 140 millions pour Canal+, uniquement pour le cinéma. Donc vous voyez, il y a quand même des proportions très 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 différentes. Et tout ça est à rapprocher aussi à la chronologie des médias, puisque on sait que plus on contribue, plus Canal contribue au cinéma, c'est normal, plus vite il arrive après la salle de cinéma. Il est très vite en exclusivité. Donc tout ça, vous voyez, c'est une espèce de bouleversement majeur depuis en fait la dernière loi audiovisuelle majeure qui date de 1986. Donc là, on va vers un grand, grand, grand bouleversement.
Nathalie Cosse-Cerdan, comment vous abordez justement la place des plateformes à l'école qu'est la FEMIS ?
L'idée, c'est de pas être dans une bulle totalement isolée du monde qui nous entoure. Donc, bien évidemment, vu la place que prennent ces plateformes dans le visionnage des œuvres, je dis visionnage, dans la consommation des œuvres, il est évident que probablement nombre de nos étudiants demain auront l'expérience d'une collaboration avec l'une des plateformes. Donc, nous avons des accords comme nous en avons avec les diffuseurs hertziens classiques, avec Netflix, avec Amazon, avec l'idée de chaque fois faire en sorte que chacun occupe une place qui ne soit pas dominante, ce que voulons, nous, c'est travailler avec des partenaires et non pas être soumis à des courants trop puissants. Et je dirais peut-être, pour compléter ce qui a été dit, c'est que finalement, le cœur de l'offre de ces plateformes, c'est avant tout la série qui présente l'avantage d'être une forme d'expression audiovisuelle fidélisante qui donc habitue ses spectateurs à revenir très fréquemment et qui constitue le cœur de la programmation. Donc l'enjeu des évolutions de la réglementation telles qu'elles ont été dessinées récemment, c'est d'espérer que ces plateformes vont aussi consacrer une partie de leurs efforts dans le cinéma, mais il restera que mondialement, le cœur de leur programmation, c'est quand même la fiction et la série avec de nombreux épisodes, avec des
reprises, des suites, des préquels, desquels, des saisons et des de tirer sur la bobine, quoi. Hein.
Voilà, et donc l'école n'est pas non plus totalement indifférente à cet surgissement de la série, parce que je pense qu'il nous reste un quart d'heure d'émission et que c'est un peu ça qui est questionné avec ce qu'on interpelle comme étant la mort possible du cinéma, à laquelle je ne crois pas du tout, c'est que la série est arrivée dans le paysage culturel français, notamment avec une mise à niveau très 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 profitable en fait des fictions qui sont réalisées sur le territoire français. Et que voilà, donc ça fait désormais partie de l'offre
du paysage,
l'offre culturelle. Et
Guillemette Odissi. Pardon, je veux pas vous couper.
Que nous y préparions nos étudiants, voilà.
Guillemette Odissino, est-ce qu'on peut dire qu'il faut justement apprendre, il faut que le cinéma apprenne aussi à travailler avec ces plateformes et plus les voir comme un ennemi, mais un partenaire?
Disons que je retournerai la phrase, il faudrait que ces plateformes ne se comportent pas en ennemi, mais en partenaire, plutôt. Parce que le problème, c'est surtout aussi, c'est la question de la diffusion. On parlait d'Annette tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si Amazon continue...
Le dernier film de Léos Carax.
De Léos Carax. Je ne sais pas si Amazon continuera à avoir ce genre de pratique, enfin, de bonnes pratiques. Mais je crois que les accords avec Amazon, c'était que le film sortait d'abord et avant tout en majesté, en salle, en France, pour faire une carrière en salle, et ensuite arriver plus tard sur la plateforme Amazon, ou peut-être un peu à l'étranger, un peu plus tôt sur sa plateforme, mais en tous les cas, laisser vivre le film d'abord en salle. C'est ça qu'il faut aussi, genre si Netflix met des sous dans les films, il ne faut absolument pas que l'une, par exemple, des conditions soit que les sorties soient en même temps dans les salles et sur la plateforme. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut surveiller. C'est-à-dire, c'est vraiment une question d'endroit, en fait. C'est d'endroit où va exister le film.
Sur franceinter.fr, Marie-Claire nous dit « Impossible pour moi de comparer un film qui ne passe pas en salle de cinéma avec un film qui passe à la télé ou sur portable. L'écran, l'atmosphère, les sièges, les entrées mystérieuses, parfois le rêve dans le noir, le fait croire dans l'action et j'en passe.
Oui.
J'espère que je mourrai avant de voir la disparition du cinéma à laquelle je ne crois pas. Cinéma, clap de fin, c'est la question qu'on se pose dans le débat de midi aujourd'hui. On attend toujours vos commentaires, vos réactions sur le site de France Inter. Bel été à vous. Il est midi 47.
Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los pocos me está quitando la vida poquito a poco, a poquito a poco.
Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar. Pa' que me escuche toda España. Hey. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido.
Lo hice por ti.
Eso es.
Lo hice por ti.
¿Cómo no?
Y yo lo hice por ti.
Hice por ti, mami.
Yo lo hice por ti.
Vamos, vamos.
Lo hice por ti. Y yo lo hice por ti,
que me quieras.
Yo lo hice por ti.
Yo he nacido bohemio, pero tu amor me ha cambiado. Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio. Es un veneno cruel y violento que estáis alimentando, que va a hacer que me mate mientras todos seguís ahí mirando.
Lo hice por ti. ¿Cómo? Lo hice por ti. Yo lo hice por ti.
Recuerdo al chaval hambriento que no invitabais al baile. Antes cuando era inocente, antes, durante yo no era nadie. Y ahora todo el día metido en farra, escapando pa'lante, intentando olvidarte, toreando recuerdos que arden. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido.
Lo hice por ti.
Eso.
Lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Lo hice por ti. Yo lo hice por ti,
no lo hice por ti. Il est jeune, mais il aime bien travailler avec l'ancienne génération. Il a bossé avec les Gypsy Kings, mais aussi José Feliciano, un guitariste portoricain. C'est lui d'ailleurs qu'on vient d'entendre. C'est Tangana, c'est son nom, Un Veneno, le titre de la chanson.
Thomas Chauvineau, le débat de midi.
Le système a changé. Aujourd'hui, on ne consomme pas les images de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, entre le cinéma et le téléphone, c'est juste une question de taille d'écran. Le public, on n'a rien à foutre si les contrats entre Canal+, et TF1, on ne peut pas le voir, le DVD va sortir, il faut attendre pour le streaming. On s'en fout. Il n'est pas disponible, on le pirate. Aujourd'hui, le cinéma, c'est vendre des pop-corns, littéralement. C'est pas la qualité du film, c'est combien de personnes vont venir le voir, et donc combien de litres de coca, combien de pop-corns et combien de Haribo. Pour vendre du pop-corn, il faut faire des films easy, facile, qui prennent pas trop la tête, où les gens n'ont pas peur, où on dit rien sur les femmes, rien sur les noirs, rien sur les juifs, rien sur les PD, rien sur n'importe quoi, ok ? Ce qui se passe, c'est qu'on est formaté, et ça, c'est la mort.
Vincent Cassel, qui ne mâche pas ses mots, interviewé en janvier 2020 sur Combini. Quatre invités aujourd'hui pour parler du cinéma et de la mort du cinéma, du moins selon Vincent Cassel. Nathalie Cosse-Cerdan, directrice générale de la FEMI. Sophie Robert, qui est coprésidente d'un cinéma en Bretagne. Valérie Lépine-Carnic, présidente de l'Union des producteurs de cinéma. Et Guillemette Audicino, critique pour le cinéma. Valérie Lépine-Carnic, est-ce que justement, avec ces mastodontes comme Disney ou Netflix, on prend pas le risque, qui finance de plus en plus le cinéma, vous venez de nous le dire, on prend pas le risque d'imposer des films codifié et qui n'ait plus la place pour des films inventifs, des films surprenants.
Le spécialiste des médias, Alain Le Diberdère, parle de trous noirs. J'aime bien l'idée en parlant des plateformes. C'est des puissances qui sont attractives et aussi destructives, destructrices. Voilà. Le risque, il a déjà été évoqué, c'est l'uniformisation des contenus. À terme et une perte de je dirais pas de qualité mais en tout cas de proposition de cinéma et de contenu pour l'instant on n'y est pas confronté. On voit bien que il y a une politique de la part notamment de Netflix qui est une politique très good guy. Je fais des accords notamment avec la Fémis ou avec la Cinémathèque pour restaurer des films d'Abel Gance. Tout ça est sur le papier très sympa. Je ne vous cache pas qu'on est un petit peu inquiet quand même des propositions à venir. Oui, bien sûr.
Guillemette Audicino, vous partagez cette inquiétude ?
Bah oui. Évidemment que c'est inquiétant si ces comportements, disons un peu nobles, cachent si cet arbre cache une forêt de dévastation à venir. Après, là où je sais pas pourquoi, mais j'ai une confiance un peu aveugle, ce qui pour le cinéma est quand même emmerdant, mais j'ai la confiance aveugle justement dans la force de la cinéphilie, c'est-à-dire qu'à un moment, une plateforme qui va vouloir concerner le plus grand monde ne pourra pas bizarrement faire l'économie des cinéphiles et des vrais amateurs de cinéma. C'est bien mignon de faire. Peut-être qu'au début ils se diront allez, on va produire du super-héros, on va produire du feel good, on va produire des trucs avec des ados, on va produire des trucs mous qui se consomment facilement. Les films dont parlait Vincent Cassel à l'instant, c'est-à-dire du digeste. Mais au bout d'un moment, le digeste, ça suffit pas. Il y a quand même une grosse part des gens. Et les messages des auditeurs le montrent bien, qui ont envie d'un cinéma de qualité, qui ont envie qu'on leur fasse des propositions.
Sont les auditeurs de France Inter aussi, qui c'est pas forcément représentatif de la France.
D'abord, il y a beaucoup
entière.
D'auditeurs de France Inter.
Certes.
Ça fait bien au moins 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions de personnes. Donc si déjà on parle de ça pour aller au cinéma, ça fait du monde. Non, mais je pense que la qualité et que le désir de qu'on nous raconte des histoires étonnantes. Et qui parle justement, donc, puisque Vincent Cassel en parle, qui parle des PD, des femmes, des juifs, des noirs, des arabes, avec des sujets passionnants. Oui, je pense que ça ne peut pas mourir, en fait.
Sophie Robert, vous êtes coprésidente du cinéma Le Bretagne à Guichen, donc en Ille-et-Vilaine, comment vous choisissez les films qui passent dans votre cinéma?
Alors, je voudrais quand même ajouter que le cinéma Le Bretagne est labellisé RSC. Depuis 1999, donc on a...
Vous devez passer un certain type de film aussi.
Voilà,
pour continuer
mais
à avoir ce label.
Ça représente pratiquement 40% de notre programmation. Hein. C'est aussi l'avantage d'avoir deux salles. Pour la programmation, eh bien, il y a une commission de programmation au sein de l'équipe des bénévoles. Il y a 6 personnes. Et donc, on discute, on s'informe. Et ensuite, on est en lien direct avec une structure qui s'appelle Ciné-Diffusion, qui, elle, va être l'intermédiaire entre les distributeurs et nous. Et puis, avec eux, on va bâtir notre programmation, généralement sur 3 semaines, 4 semaines. Et puis, on va également garder ce qu'on appelle, nous, notre âme. C'est-à-dire qu'on va continuer de proposer des films. Chaque mois, on a un documentaire à proposer. On a des séances qu'on appelle des lundis
des
pas comme les autres.
Cœur,
voilà. Oui,
des films
oui,
qui
oui.
vous plaisent. Nathalie Cosse-Cerdan, directrice de la FEMIS. J'étais surpris en regardant les chiffres. Alors, il y a beaucoup de monde qui veut rentrer à la FEMIS. On l'a dit, il y a beaucoup de monde qui ne rentre pas à la FEMIS. Seul 1% des gens qui veulent faire réalisateur, par exemple, et qui passent le concours sont admis.
Oui, bah c'est le principe d'une école qu'il faut beaucoup désirer, puisqu'elle est financée justement par des fonds publics. Donc forcément, ce concours, il régule énormément d'envie d'y accéder. Je dirais que pour autant, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas la FEMIS qu'on ne peut pas faire du cinéma. Il y a toute la place de la formation par le terrain qui continue d'exister. Et il y a des jeunes réalisateurs qui émergent sans du tout avoir fait la FEMIS. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est juste un petit accélérateur de parcours. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, sans doute que c'est vrai que c'est très important que dans cette école... se maintiennent une croyance très forte dans les nécessités de cinéma, les désirs personnels de ces jeunes créateurs. C'est-à-dire qu'en aucun cas, nous, on ne cherche à imposer des lignes éditoriales, de diffuseurs, de plateformes pour faire émerger les films qui... j'ai l'impression que dans les projets de nos étudiants, toutes les préoccupations du monde contemporain, les vibrations de l'époque sont présentes, qu'il s'agisse des utopies ou dystopies écologiques, les violences policières, les effets du confinement, et comme le disait Guillemette, les places dévolues aux hommes, aux femmes, aux minorités sexuelles, tout ça c'est très très présent dans les projets de création, en aucun cas, en tout cas, on essaie de brider ces libertés-là, et je pense que ces jeunes créateurs qui vont fabriquer le cinéma de demain, ben, ils ont toute la place pour exister, et toute la bienveillance d'un secteur qui en France, il faut quand même le souligner pour conclure, est quand même un pays complètement à part dans le monde du cinéma, de par l'excellence en fait de toute sa filière, de la régulation qui a été mise en œuvre pour financer les projets de demain à partir de la consommation d'aujourd'hui.
Jusqu'aux écoles dont vous êtes la représentante. Eh bien, voilà. Merci à toutes les quatre d'avoir été en direct avec nous. Le débat de midi, c'est fini. Mais on se retrouve demain. On parlera urgence médiatique et on attend déjà vos commentaires et vos réactions sur l'appli de France Inter.